Geneviève Leguet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la coprésidente d'Artisans du Monde, coprésidente au niveau départemental. Qu'est-ce que c'est Artisans du Monde en gros ?
Artisans du Monde, c'est une association qui dépend d'une fédération. Donc la fédération a 165 associations en France, à peu près une à deux dans chaque département. Voilà, donc nous sommes une association qui sommes née à Nice en 1997. Et la fédération existe depuis 1975.
Donc c'est au niveau national, hein ?
Au niveau national, on est pionniers du commerce équitable.
Et vous ne faites que ça, du commerce équitable ?
Oui, nous faisons que du commerce équitable.
En faisant quoi ? Vous installez vous organisez des réseaux de vente ?
Alors, en France, nous avons 165 boutiques, mais chaque association travaille sur trois axes. L'axe de vente des produits des petits producteurs dans les boutiques et aussi sur les stands, dans les foires, sur le développement durable, etc. Et puis l'axe d'éducation et l'axe des plaidoyers. Alors, l'axe d'éducation, on est partenaire de l'éducation nationale et nous allons dans les écoles sensibiliser les enfants au commerce équitable. Et l'axe des plaidoyers, donc, c'est des débats, des conférences, des campagnes de pétitions pour conscientiser les gens au commerce équitable et surtout à la vie des petits producteurs du Sud.
Expliquez-nous un petit peu quelles sont les façons dont vous commercez. Vous avez des centrales d'achat, où est-ce qu'elles sont ?
Alors, en 1984, nous avons construit notre propre centrale d'achat qui s'appelle Solidarmonde, qui est actuellement à Paris. Donc, cette centrale d'achat, on a des coopératives dans le Sud du monde. Nous travaillons avec 43 pays du Sud. Et donc, nous faisons travailler ces petits producteurs, puisque quand ils sont dans le commerce conventionnel traditionnel, ils sont tout seuls, ils ont souvent un tout petit lopin de terre, et ils se retrouvent seuls face à un grossiste d'une multinationale, alors que dans les coopératives, ils ont l'idée de se regrouper, de créer des coopératives dont l'union fait la force, et après, ils appellent le commerce équitable pour les agréer en commerce équitable.
Alors ça, c'est en amont. Quels sont vos critères qui vont vous permettre de décider, voilà, ce petit producteur, on va le choisir pour commercer équitablement?
Alors d'abord, c'est parce qu'ils sont regroupés en coopérative. Ils savent, parce que maintenant ça se sait, ils savent qu'en travaillant avec le commerce équitable, ils vont être respectés, ils vont avoir une vie décente, ils vont couvrir leurs besoins essentiels. Et donc, ils appellent le commerce équitable pour reconnaître leur coopérative en commerce équitable. Et c'est environ 3 ans de négociation. Ça ne se fait pas comme ça, parce qu'il y a une charte du commerce équitable, donc sur tout ce qui est social, donc avec le paiement d'un prix juste, que les enfants ne doivent pas être exploités, je devrais dire les enfants ne doivent pas travailler, mais dans ces pays-là, après l'école, ils aident encore les parents comme chez nous il y a 50 ans. Les libertés syndicales de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, doivent être respectées. Ensuite, il y a toute la partie environnementale où nos paysans ne doivent pas mettre de pesticides ni d'engrais chimiques dans leurs champs. Alors ça, on n'y arrive pas encore à 100%. Ça, c'est, on va dire, en gros, un peu plus de 50% des coopératives respectent ça. Ce n'est pas encore le 100%. Mais nous avons beaucoup de produits AB dans nos rayons.
Donc ça, c'est en amont, mais en aval. Comment vous faites pour distribuer ? Vous avez des magasins, des petits magasins ?
Alors, nous avons des petites boutiques qui sont tenues par des bénévoles.
Alors, quel peut être le circuit, en fait, de la distribution ? Est-ce que vous pensez, vous, que le commerce équitable s'est réservé justement à ces bénévoles, à ces petits commerçants qui distribuent les produits qui sont faits dans le Sud ? Ou est-ce que ça peut se distribuer en grande surface ?
Ben, disons qu'il y a 5 ou 6 ans, Max Avelard nous a demandé de rentrer, parce que c'est une marque, hein, Artisans du Monde, donc a demandé qu'on rentre nos produits d'Artisans du Monde dans les grandes surfaces. Et donc, comme nous sommes une association démocratique, toutes les associations se sont réunies. Et en fait, il est remonté que non, parce que pour nous, c'était un non-sens, parce que nous travaillons avec des filières intégrées. C'est-à-dire que nous, du petit producteur jusqu'à la vente, tout est équitable, sauf le transport, bien sûr, parce que dans le commerce équitable, jamais le transport est équitable. Voilà. Alors, nous avons pensé, il y a 5 ou 6 ans, que en rentrant dans les grandes surfaces, c'était un non-sens parce que les manutentionnaires, les employés ne sont pas bien payés en France. Donc, nous n'avons pas rentré notre marque Artisans du Monde. Bon, après, c'est un débat. On reconnaît que grâce à l'entrée dans les grandes surfaces, le commerce équitable a pris de l'ampleur, hein, puisque nous existons depuis 1975 et quand même depuis les années 2005, ça explose.
Et dans quel domaine vous développez maintenant ? Quels produits ?
Quel produit? Nous avons tous les produits. Nous avons de l'alimentaire, du sud.
Il
Et
y a
puis...
quelqu'un, il y a quelque chose qui prend le pas ou une direction que vous n'avez pas encore explorée, que vous allez explorer maintenant?
Non, je vois pas ce que... Non, non, non. On a donc toute l'alimentation, des habits, de tout ce qui est la vaisselle, des produits cosmétiques. Enfin, nous avons des boutiques très fournies. Alors, vous voyez, il y a autre chose dans le commerce de grandes surfaces aussi. Les grandes surfaces, bon, on est complémentaires parce que vu comment la vie est organisée aujourd'hui en société, les gens, ils font les courses une fois par semaine. Et quand vous allez dans la grande surface, ça reste quand même du commerce équitable. Mais il faut savoir quand même qu'ils ont fait une étude de marché et que dans les grandes surfaces, ils vendent ce qui est rentable. C'est-à-dire, ils vendent le café, le chocolat, le thé et pas grand-chose à côté. Nous, on vend tout ce que les petits producteurs du Sud font. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une
Tout à fait.
différence.
Merci Geneviève Le Guay. Magali Aurélia, vous faites partie d'Artisans du Monde?
Non.
Non? Pourquoi?
Oui, c'est vrai, je ne connaissais pas.
Vous ne connaissiez
Tout
pas?
simplement. Non.
Donc c'est une démarche qui vous intéresse?
Oui, bien sûr.
Vous avez voulu vous lancer dans la filière bio et commerce équitable.
Oui.
Qu'est-ce que vous vendez à Monaco, à Last Drop of Gasoline?
Nous vendons du vêtement, nous vendons de l'accessoire, donc vêtements hommes-femmes. Nous ne faisons pas de l'enfant parce que c'est trop compliqué au niveau des tailles et les fournisseurs actuellement ne proposent pas des choses assez intéressantes. Enfin, tout du moins, c'est ce que nous avons jugé. Et nous vendons donc de l'accessoire, de la décoration, du bijou.
Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision de passer au commerce équitable? Qu'est-ce qui vous a motivé?
Ça n'était pas une décision, c'était une logique, c'est une façon de vivre et voilà, c'est de la logique, tout simplement.
En fait, c'est un engagement, si je comprends bien.
Non, enfin, non, c'est une manière d'être et de vivre. Donc, on s'est fait plaisir avec mon mari, on a monté une boutique et donc c'était logique qu'elle soit sur ce créneau-là.
Quelle est la réponse ici à Monaco sur le commerce équitable? Les gens sont intéressés, vous avez de plus en plus de clients ou pas?
Oui, le bouche à oreille fonctionne très bien. Les gens sont intéressés, sont surpris, nous, sur la devanture. Ça n'est pas quelque chose que nous avons affirmé, mais nous avons la bonne surprise de découvrir que quand les gens pénètrent au sein de la boutique, ils se rendent compte que c'est du commerce équitable et bio. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas proposé. Donc voilà, pour le moment, on est très satisfait.
Est-ce qu'il vous pose des questions pour savoir d'où vient le produit, comment c'est fait, pourquoi ceci,
Non,
cela?
enfin, certains sont timides, donc comme moi je le suis moins, je vais au devant et je dissèque, on va dire.
Alors, comment trouvez-vous les produits que vous proposez?
C'est une recherche sur Internet. Ensuite, ce sont les salons. Alors certains maintenant, enfin, il y a des salons bio et équitables. Et puis après, voilà, c'est le bouche à oreille. C'est un milieu qui est assez restreint et petit. C'est comme ça aussi qu'on arrive à écrémer au bout d'un moment parce qu'il y a des mauvaises surprises. Nous sommes aussi débutants et on se rend compte parfois. Enfin, on a déjà éliminé voilà, certaines marques. Et voilà, c'est un travail de recherche au quotidien, on va dire, pour se renouveler, pour ne pas. Parce que la clientèle monégasque est aussi habituée. Pas très bien habitués, on va dire, donc il ne faut pas les
Plus
lasser.
luxe. Non?
Plus luxe et plus élitiste, et
Oui.
ça, il ne faut pas se leurrer, nous on le savait très bien, donc voilà, il faut sans cesse renouveler.
Et est-ce que vous allez sur place pour vous rendre compte comment le produit est fait?
Pas encore, mais voilà, c'est l'avenir proche, on espère
C'est
bien.
quelque chose que vous qui est
Oui,
dans
avec
vos
le Pérou.
projets.
Oui.
Est-ce que vous achetez les produits ou est-ce que vous êtes en
Oui,
dépôt-vente?
non. Alors là,
Donc
il y
vous
a une
prenez un risque.
marque. Nous prenons d'autant plus un risque que, comme ce sont des petites structures, elles ont besoin de nos. Comment on appelle ça?
De votre garantie, de
Oui,
votre.
on paye la marchandise avant la production. Ils produisent avec notre argent. Et ensuite, enfin, on paye une avance, un acompte, voilà, c'est le mot que je cherchais, un acompte conséquent. Parce que sinon, ils ne peuvent pas produire.
Qu'est-ce qui vous amène à choisir tel et tel produit? Selon quels
Ah
critères
ouais,
vous décidez?
malheureusement, ce ne sont que mes goûts. Parfois mauvais, parfois voilà.
Mais toujours dans un cadre bien déterminé de commerce équitable.
Ah oui, ça c'est la condition sine qua non. Enfin, équitable, écologique, recyclé, sinon ça ne passe pas la porte de la boutique.
Mais alors, il y a quand même une question qu'on peut se poser, c'est que si tout n'est pas labellisé, qu'est-ce qui vous fait être certain que le produit que vous avez déterminé en cherchant sur Internet va être un produit du commerce équitable?
Les recherches que nous faisons sur Internet et les produits que nous avons fait rentrer via Internet sont des produits recyclés. Par exemple, avec une marque londonienne que je cite souvent, qui utilise des vêtements d'hommes et qui fait des vêtements de femmes. Par exemple, avec des vestes d'hommes, on en fait des robes de femmes, des chemises d'hommes, on en fait des robes de femmes. Donc, à partir de là, bon, voilà, tout ce qui est recyclage. Ensuite, pour le reste, effectivement, il y a un facteur rencontre, parce que les fournisseurs que nous avons sont à la tête de leur entreprise, vu que ce sont des petites structures. Et puis après, pour le cas où ça n'est pas le cas, où là, donc, on a eu une mauvaise surprise, eh bien, voilà, on fait une saison. Au cours de la saison, on se rend compte que, là, nous, on a la démarche honnête vis-à-vis de la clientèle qui arrive de dire, bon.
Et là, vous retirez l'affaire.
Et là, c'est pour deux marques, là.
Alors, justement, les deux marques, on va en parler. Là, vous êtes fait abuser.
Non, bah, disons.
Comment ça s'est passé?
Ce qui s'est passé, c'est que nous n'avons pas été mis au courant. Donc, on va les citer. Voilà. Donc, une, ce sont les fées de Bengale, et l'autre, c'est Eden ou Edun, suivant. Donc, c'est la marque de Bono. Concernant donc les fées de Bengale, elles se sont fait racheter par Vivarte, et il s'avère que personne ne nous a informé. Et au moment où nous on reçoit notre commande, il y avait écrit Kukai en gros comme ça.
Voilà. Ça veut dire que la marque avait été rachetée par une autre marque.
Par Vivarte, par D'accord. un grand groupe. Et à ce moment-là, on s'est aussi rendu compte que nous, les tarifs qui nous avaient été soumis sur le salon n'ont pas été les mêmes à la facturation. Nous, on a joué le jeu parce que nous pratiquons des marges extrêmement raisonnable, parce qu'il ne faut pas se leurrer. On achète les produits plus chers. Si le bio n'a pas toujours une belle image, si en plus de ça, on sort de chez nous en disant « bon, bah, c'est cher, ces gens-là surfent sur la vague », ce n'est pas très intelligent.
Le fait de se faire racheter par une grande marque, ça ne veut pas dire que le commerce équitable soit abandonné, si
ben, ça perd quand même de sa valeur. Comme nous, on n'est plus sûr, parce que depuis, cette marque-là a beaucoup de presse, depuis, cette marque-là a ouvert de boutiques. Et puis, je vous dis, c'est un petit milieu, et donc il y a des choses, il y a des fuites. Voilà.
Donc, vous apercevez que c'est plus le cas, quoi.
Suis plus certaine du produit, donc D'accord. C'est hors de question qu'on aille derrière cette marque. Et même si c'est très joli, même si c'est très attractif, et que ça va être beaucoup de succès.
Et sur la seconde marque, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est racheté par LVMH, et là, je l'ai lu dans la presse, que voilà, même Bono aurait été très surpris, parce qu'il s'avère que la production a été faite par des enfants en Chine.
Vous avez la foi dans l'avenir en ce qui concerne le commerce équitable?
Oui.
Oui, c'est un oui assez timide.
Non, oui, fatalement. Oui.
Très bien.
Oui, c'est ma volonté. Enfin, la volonté de tout le monde.
Merci, mesdames, pour ces exemples concrets. Voilà, c'était notre heure commerce équitable. Et Live Éthique sur Radio Éthique. Merci de nous avoir suivis. Merci à Céline Meringhelli et Christophe Bonnet qui ont préparé et réalisé cette émission. On va se retrouver dans un mois pour une autre émission de Live Éthique. Au revoir à tous.